Les mystères du Palais Royal, cinquième partie. Chapitre 31. L'or. Émeraude avait suivi la direction de son regard. Elle devint livide. Le regard de Raoul quitta le cadran de la pendule pour revenir au visage de la jeune femme. Ce visage était décomposé par l'émotion et l'épouvante.
« Veux-tu toujours mourir ? »
dit-elle d'une voix brisée et méconnaissable. « Oui. » « Toujours. »«
Rien ne te rattache à la vie ?»«
Rien. » Le froncement convulsif des sourcils d'Émeraude révéla qu'une douleur aiguë la mordait au cœur. Mais sa physionomie redevint calme aussitôt.
« Eh bien, » dit-elle, « mourons ensemble. »«
Quoi ?» s'écria Raoul. « Vous voulez
partager ton linceul au défaut de ta vie ?»«
Oui, je le veux, et je te supplie de le vouloir aussi. »
« Soit, » dit Raoul.
Émeraude s'approcha d'un petit meuble de laque. Elle toucha un ressort. Le meuble s'ouvrit. Sur une tablette illustrée de pagodes et de mandarins, elle prit un flacon de cristal, rempli d'une liqueur limpide et transparente, comme de l'eau de roche. Puis elle revint auprès de la cheminée, en tenant ce flacon à la main.
« Qu'est-ce que cela ? » demanda Raoul.
« Un poison qui foudroie et ne fait pas souffrir. »
Y en a-t-il assez pour deux ?
Il y en aurait assez pour 100. Une aiguille, trempée dans ce poison, tue aussi vite et aussi sûrement qu'une balle au cœur. Elle posa le flacon sur la cheminée, prépara deux verres sur la petite table, les remplit à demi d'un vin brillant de Lacryma Christi, récolté sur le Vésuve, et dit, en reprenant le flacon et en s'apprêtant à le déboucher, « Nous allons partager. » Mais le jeune homme l'arrêta. Depuis un instant déjà, Raoul ne voulait plus mourir. Il venait de comprendre, dans toute son étendue, l'amour réel, immense, exclusif d'Émeraude. Le lourd fardeau de son ennui et de ses tristesses avait disparu, comme par enchantement. Il ne se souvenait que d'une chose, c'est qu'Émeraude était jeune et belle, qu'elle l'aimait, et que lui, il avait 25 ans à peine. Aussi, quand Émeraude étonnée se retourna, Raoul l'enveloppa de ses deux bras et approchant ses lèvres ardentes à sa petite oreille, qu'on eût dit sculptée par Phidias dans un marbre blanc de Carrare, il murmura « Au lieu de mourir tous deux, ne vaut-il pas mieux vivre ensemble ?» Au moment où nous rejoignons nos deux personnages que nous avons jugé convenable d'abandonner pour quelques heures aux douceurs du tête-à-tête, ils étaient assis en face l'un de l'autre, à chaque angle de la cheminée. Raoul parlait. Il racontait son histoire à Émeraude. Mais cette fois, il ne bâtissait point un roman, comme à l'époque où la jeune femme et lui s'étaient rencontrés jadis sous les dangereux auspices du bonhomme Benoît. Il disait véritablement sa vie tout entière et telle qu'elle avait été. Il ne déguisait rien des phases brillantes et néfastes de cette existence d'aventurier, de bohème, de gentilhomme. La chaumière des Rigaud, le château de la Tremblay, Réginald, le repas des funérailles, les héritiers, la maison de jeu, Déborah, Hébé, le mariage, l'adultère, la vengeance, toute cette étrange épopée dont nous venons de tracer le sommaire en quelques mots, passa sous les regards d'Émeraude. Elle écoutait, haletante, oppressée, émue, tantôt riant, tantôt pleurant. Elle s'irritait des amours de Raoul. Elle partageait ses haines, ses espoirs. Avec lui, elle caressait les rêves de la vengeance. Avec lui, elle regrettait de s'être trop vengée. Quand Raoul eut achevé, Émeraude avait la fièvre. Un rose vif colorait ses joues. Son regard étincelait d'un éclat pareil à celui du diamant. Elle était d'une incomparable beauté. Raoul s'agenouilla devant elle et murmura « J'ai bien fait de ne pas mourir. » Après les dernières paroles de Monsieur de la Tremblay, il y eut un moment de silence. Puis Raoul, enlaçant de ses bras la taille souple et frémissante de sa jeune et belle maîtresse, lui dit « Tu sais ma vie, c'est à toi de parler maintenant. Tu as promis de me révéler le secret de ta fortune. J'attends. »
« Oh, ce sera bien court, » répondit Émeraude. « Mais d'abord, écoute-moi. »
Raoul fit un geste qui témoignait de son attention. La jeune femme reprit. « Après une existence telle que la tienne, tu dois être au-dessus des préjugés, n'est-ce pas ?»«
Certes, » fit Raoul.
« Tu dois prendre les hommes pour ce qu'ils sont. »
« Et Dieu m'est témoin, » s'écria Raoul, « que je les estime à leur juste valeur. »
« Eh bien, si l'on t'offrait une domination absolue, un pouvoir sans bornes, infini, en un mot la toute-puissance, à la condition d'engager contre ces hommes que tu méprises une guerre occulte, mais terrible, dans laquelle tu seras vainqueur.
Eh bien, accepterais-tu ?
Sans hésiter.
Bien vrai ?
Je te le jure.
Alors, Raoul, ce pouvoir, cette domination, cette toute-puissance, je te les offre.
Toi, Émeraude ?
Oui, moi, la pauvre Émeraude.
Tu parais sérieuse et convaincue, mon enfant, et pourtant, malgré moi, je me demande si tu railles ou si tu es folle.
Un sourire triomphant fit étinceler les dents de la jeune fille sous ses lèvres de corail.
L'or est-il le maître du monde ?
Demanda-t-elle d'une voix calme.
Admets-tu cela, Raoul ?
Je l'admets.
La royauté de l'opulence a-t-elle le pas sur toutes les autres ?
Admets-tu cela aussi ?
Oui, si cette opulence est immense, infinie, sans bornes, comme le pouvoir dont tu parlais tout à l'heure.
L'homme qui pourrait puiser sans cesse dans des trésors aussi inépuisables que les grains de sable du bord de la mer, serait-il, s'il le voulait, un dominateur absolu ?
Oui, mais cet homme n'existe pas.
Émeraude quitta son siège. Elle saisit la main de Raoul et lui dit
« Viens avec moi. »
Raoul se laissa entraîner. Émeraude s'approcha de la muraille. Elle appuya son doigt sur l'une des fleurs d'argent brodées dans la tenture. Une petite porte, admirablement dissimulée dans les plis nombreux de l'étoffe, tourna sans bruit sur ses gonds invisibles. La jeune femme introduisit Raoul dans un cabinet de moyenne grandeur. Ce cabinet n'avait pas de meubles. Les murailles disparaissaient sous un amoncellement de sacs qui s'élevaient jusqu'au plafond.
« Qu'est-ce que cela ? » demanda Raoul.
Émeraude, au lieu de répondre, essaya de détacher la corde mince qui nouait la gueule d'un des sacs. Mais ses doigts mignons n'y parvinrent point. Elle fit un petit geste d'impatience. Puis se tournant vers son amant, elle lui dit
« Donne-moi ton épée. »
Raoul obéit. Émeraude prit l'arme par la poignée et d'un coup de pointe entailla l'un des sacs. Aussitôt, par la blessure béante, des milliers de pièces d'or ruisselèrent sur le plancher. Émeraude éventra de même un second sac, puis un troisième. Des cascades métalliques inondèrent la chambre avec un joyeux bruissement. L'étrange inondation montait. Raoul et sa compagne avaient de l'or jusqu'aux chevilles. Monsieur de la Tremblay, stupéfait, n'en pouvait croire ses yeux et se demandait s'il était réellement éveillé.
« Eh bien, incrédule, qu'en dis-tu ? » demanda Émeraude en souriant.
Et comme Raoul ne répondait pas, la jeune femme poursuivit.
« Ces tas d'or qui t'étonnent et t'éblouissent ne sont pas la 100 000e partie des richesses que je puis mettre à ta disposition. »
« Mais qu'es-tu donc ? » balbutia Raoul. « Es-tu une fée ? Un génie ? »
« Je suis la reine, » répondit Émeraude.
« La reine ? » répéta le jeune homme.
« La reine des faux monnayeurs du château maudit. »
Raoul regarda Émeraude. Puis se baissant vivement, il ramassa une poignée d'or et se mit à étudier chaque pièce, comme un usurier prêteur sur gage regarde un diamant qu'on lui apporte en dépôt. Mais l'examen le plus attentif vint démentir à ses yeux le sens des paroles d'Émeraude.
« Tu te moques de moi ? » dit-il en laissant retomber les louis qu'il tenait dans sa main.
« Cet or est bon ?»«
Tu vois, du moins, » répliqua Émeraude, « qu'il peut tromper les plus habiles. »«
Quoi ? Tu persistes ?
À soutenir la vérité ?
Oui, sans doute.
Mais ce que tu me dis là est incroyable. »«
Incroyable, soit, mais réel. »
« Dans un instant, tu seras convaincu. »
Émeraude ramena Raoul dans le petit salon aux tentures bleues. Elle referma la porte mystérieuse et les jeunes gens reprirent leur place aux deux angles de la cheminée. Émeraude commença alors un récit trop long pour que nous le reproduisions ici, mais dont nous allons donner la substance. Un jour, quelque temps après l'épisode du bélier d'argent, et alors que la jeune femme était encore affiliée à la bande des chevaliers d'industrie de la rue du Gindre, un inconnu s'était présenté chez elle. « Madame, lui avait-il dit d'emblée et sans le moindre préambule, je viens à vous comme ambassadeur. » « Et de quelle puissance ? » avait demandé Émeraude en riant. « D'une puissance qui vous offre une couronne. »«
Une couronne, dites-vous ? »
« Mon Dieu, oui. »
« Et laquelle ? »
« Celle de la richesse et du luxe, puisque vous avez déjà celle de la grâce et de la beauté. En d'autres termes, pour vous proposer une fortune immense. Acceptez-vous ? »
« Cela dépend. »«
De quoi ? »
« Des conditions. »«
Oh, elles sont simples. »«
Enfin, voyons. » »«
Il ne s'agit que d'avoir l'hôtel le plus élégant, les équipages les plus splendides, de donner des fêtes, enfin de mettre en circulation beaucoup d'or. »«
Jusqu'à présent, cela me paraît facile. Mais ensuite ?»«
Ensuite, il n'y a rien. »«
Quoi ? C'est là tout ?»«
Tout, absolument. »
« Impossible,
je vous l'affirme. »«
Allons, monsieur, il doit y avoir quelques petits mots que vous n'avez pas encore prononcés. »«
Au fait, c'est juste, mais ce mot, madame, est pour vous de nulle importance. »«
Voyons-le toujours. »«
Mon Dieu, le voici. »«
L'or que vous dépenserez sera faux. »
Émeraude tressaillit.
« De la fausse monnaie ? » s'écria-t-elle.
« Tout bonnement. » dit l'inconnu de l'air le plus naturel.
« Mais, monsieur, savez-vous bien que les faux monnayeurs sont roués tout vifs en place de grève ?»«
Je ne l'ai jamais ignoré, madame. »«
Jolie perspective, alors. »«
Elle n'existe pas pour vous. »«
Comment ?
Le danger est nul. »«
Prouvez-moi cela. » »«
C'est ce que je vais essayer de faire. » L'inconnu entra alors avec Émeraude dans des détails infiniment compliqués, tendant à lui démontrer d'abord qu'elle n'avait point affaire à de vulgaires faux-monnayeurs, pratiquant sur une échelle misérable leurs imitations maladroites et se faisant arrêter par la police à l'émission de la 10e pièce. Il s'agissait d'une immense opération, admirablement organisée. Les ateliers de fabrication se trouvaient dans un vieux château, situé à quelques lieues de Saint-Germain. L'exactitude de la reproduction était telle que grâce à un alliage de métaux encore inconnu du vulgaire et des savants, les pièces d'or pouvaient tromper les regards les plus exercés et les plus scrutateurs. Émeraude fit observer à l'inconnu que les choses se trouvant dans une situation semblable, elle ne comprenait pas à quoi elle pourrait être utile à l'association des faux-monnayeurs. L'interlocuteur de la jeune femme s'attendait à cette objection. « Je vais avoir l'honneur, dit-il, de vous répondre, madame, et je l'espère, de vous convaincre. » Chapitre 32. Une royauté. En effet, l'inconnu expliqua fort clairement et fort catégoriquement à Émeraude que les membres de l'association honorable dont il était le mandataire et l'ambassadeur éprouvaient littéralement l'embarras des richesses. Maladie rare et fort enviée. Ces honnêtes gens ne savaient comment lancer dans la circulation les sommes immenses qui s'entassaient chaque jour dans les souterrains du vieux château dont nous avons parlé. Il leur était tout à fait indispensable de se créer de hautes relations dans un monde où ils recruteraient sans peine des complices que le soupçon ne pourrait point atteindre. On devine qu'ils jetaient d'avance leur dévolu sur certains dissipateurs appartenant à d'illustres familles. Or, une femme seule et une femme réunissant les triples conditions de la jeunesse, de l'esprit et de la beauté pouvaient établir les premiers fondements de ces relations. Le hasard leur fit rencontrer Émeraude et il leur sembla qu'ils ne pourraient pas trouver mieux. Émeraude, en effet, riche, célèbre par sa beauté et par son luxe, ouvrant ses salons, donnant des fêtes brillantes, attirerait chez elle indubitablement l'élite de la mauvaise compagnie de haut lieu. elle passerait pour la plus à la mode des courtisanes, et son hôtel serait un terrain neutre où les chevaliers de la fausse monnaie pourraient coudoyer les fils de grands seigneurs et tendre leurs filets en eau trouble. Quant à Émeraude, il était parfaitement entendu qu'on détournerait un des bras du nouveau pactole pour le faire affluer chez elle. La proposition formulée ainsi était parfaitement acceptable et fut acceptée. Émeraude, connue à partir de ce moment sous le pseudonyme de Madame de Sanlúcar, étonna Paris par la magnificence de ses équipages qui dépassèrent de bien loin ceux des plus célèbres entre les impures de l'opéra. Bientôt il ne fut question que de l'éblouissante étrangère, de son hôtel, de ses soirées. Il devint de bon goût d'être de ses amis, et parmi les plus grands seigneurs du royaume, plusieurs sollicitèrent la faveur de ses invitations. Jamais femme ne fut plus entourée ni plus courtisée qu'Émeraude. Et cependant, chose bizarre, on ne lui connut pas d'amant. Émeraude ne tarda guère à prendre sur ses complices un empire absolu. Leur chef étant venu à mourir, la jeune femme avait été proclamée la reine de l'étrange association. C'est de cette royauté dont elle voulait maintenant se démettre en faveur de Raoul. Telle fut, nous le répétons, la substance du récit d'Émeraude, récit qu'elle termina en disant « Ce pouvoir suprême, entre mes mains, n'était qu'un éventail. Entre les tiennes, ce sera un sceptre. Raoul, acceptes-tu ?» Toutes les réflexions du jeune homme avaient été faites tandis qu'Émeraude parlait. « Aussi, répondit-il sans hésiter, j'accepte. » « Vive le roi !» cria Émeraude, et jetant ses deux jolis bras autour de la tête de son amant, elle l'embrassa avec passion. « Maintenant, demanda-t-elle ensuite, il faut que mon roi me dise quand il lui conviendra de se faire connaître par ses sujets. « Mes sujets ? » fit Raoul en riant. « Quels sont-ils ? » « Les membres de la colonie souterraine et mystérieuse. » « C'est juste, les hôtes du château maudit, n'est-ce pas ?» « Précisément. Eh bien, ma chère Émeraude, nous irons quand tu voudras. »« Moi, je n'ai pas de volonté. Décide. »« Aujourd'hui te convient-il ? » ?»« Ce qui te convient, me convient. » »« Tu pourrais avoir d'autres projets. » »«
Le projet de t'aimer toujours, mon Raoul, mais je n'en ai pas d'autre. » »«
Combien nous faut-il de temps pour aller d'ici au château ?»«
À peine 4 heures. J'ai 3 relais sur la route. »
« Peut-on coucher là-bas ? » ?»«
Aussi bien qu'ici, tout est prévu. Nous trouverons au château un souper prêt et une chambre chaude. »«
Eh bien, partons dans 2 heures. »«
Pourquoi pas plus tôt ?»«
Je sors. »«
Où vas-tu ? » demanda Émeraude avec une nuance d'émotion jalouse.
« Chez moi. »«
Qu'as-tu donc à faire ? » ?»«
J'ai à prévenir que je ne reviendrai pas cette nuit. »«
Prévenir ? » s'écria la jeune femme. « Et qui donc ?»
Raoul ne put s'empêcher de sourire. « Mon pauvre valet, répondit-il, mon fidèle Jacques, le seul être qui m'ait aimé en ce monde avant que je fusse aimé par toi. »«
Eh bien, va, dit Émeraude, va et reviens vite. »
Et tout en parlant, elle frappa sur un timbre. Un valet de pied accourut. Émeraude donna l'ordre de faire avancer une des voitures qui attendait jour et nuit tout attelée. C'est dans cet équipage splendide que Raoul arriva rue Richelieu, à la porte de la maison où se trouvait son modeste logement garni. Il ne voulait pas emmener Jacques avec lui. Il se contenta donc de lui donner de l'argent, en l'avertissant qu'il ne rentrerait point la nuit suivante, et que peut-être son absence se prolongerait pendant 2 ou 3 jours. Puis il remonta en carrosse et il regagna l'hôtel d'Émeraude, que désormais il considérait un peu comme le sien. Une autre voiture stationnait devant le perron, et depuis près d'une heure, un courrier à cheval avait pris les devants pour faire disposer les relais. Émeraude attendait Raoul. La jeune femme était enveloppée dans une pelisse de velours violet, garnie d'une précieuse fourrure. Un petit chapeau de feutre gris, d'une forme masculine et cavalière, semblait près de tomber de sa tête charmante, tant il était placé de côté. Cette toilette rendait Émeraude plus ravissante encore que de coutume. Raoul le lui dit. Émeraude le remercia dans un baiser. Le carrosse qui allait emmener les deux jeunes gens était parfaitement commode, mais très simple.
Les panneaux d'une nuance brune uniforme n'offraient nul vestige de dorure, non plus que de chiffres et d'armoiries. Le cocher et le valet de pied portaient une livrée grise, sans galons. Les chevaux, d'une rare magnificence, étaient bais et leur harnais entièrement noir. Somme toute, cet équipage devait passer partout sans attirer l'attention, excepté peut-être celle d'un connaisseur, à cause de la beauté des chevaux. Raoul et Émeraude prirent place l'un à côté de l'autre, et la voiture s'ébranla. L'allure de l'attelage était si rapide que bientôt les Champs-Élysées et Neuilly furent dépassés. Le carrosse, courant au milieu des campagnes mornes et couvertes de neige, dépassa Nanterre, Rueil, encore tout rempli des souvenirs du grand cardinal. On traversa Bougival. Raoul, en passant devant le petit Chastel, après avoir dépassé la machine de Marly, ce monument aujourd'hui disparu du règne du grand roi, Raoul, disons-nous, ne se douta guère que cette humble demeure devait jouer un peu plus tard un tel rôle dans sa destinée. La voiture atteignit et traversa Saint-Germain et continua à rouler, laissant Versailles sur sa gauche. Le château de la Baume, autrement dit le château maudit, était distant de Saint-Germain d'environ 6 lieues. Pour y arriver, il fallait quitter la grande route et s'engager dans des chemins de traverse assez mal entretenus et à peu près impraticables dans cette saison. Les chevaux, malgré les ornières et les difficultés de toutes sortes, ne modéraient point leur allure. 20 fois, Raoul crut que le carrosse allait se briser. Mais il était sans doute à l'épreuve des mauvais chemins, il résista. Soudain, les cahots cessèrent, le roulis et le tangage de la voiture diminuèrent. Raoul mit la tête à la portière et vit une avenue assez large, bordée de grands arbres. À une faible distance, au bout de cette avenue, se trouvaient des ruines imposantes. Une haute tour carrée et une autre ronde, massive et trapue, se dressaient à chaque angle de ces ruines, ainsi que de colossales sentinelles. Comme débris du temps passé, cela était beau et grandiose, mais aucun vestige d'habitation moderne ne se laissait entrevoir parmi les pierres croulantes et les murailles démantelées. « Que dis-tu du château ?» demanda Émeraude en souriant.
« Je dis que tu t'es moqué de moi. Il est impossible de coucher ici, à moins d'être chouette ou chat-huant. »
« Tu crois ?»«
Oui, certes, à juger par l'apparence. »
« L'apparence est souvent trompeuse. Enfin, patience, nous arrivons, et tu vas voir. » En ce moment, la voiture s'arrêtait sous une porte gothique à moitié détruite et qui jadis servait d'entrée à la cour d'honneur. Raoul et Émeraude descendirent. Le jeune homme regarda autour de lui. Il ne vit que des donjons éventrés, escaliers dont les hardies spirales s'élançaient vers le vide, des écussons brisés et des entassements de décombres. Chapitre 33. La tour carrée. Quelques pas d'hommes, empreints sur la neige de ce vaste désert qui avait été la cour d'honneur du château, étaient les seuls indices de la présence d'êtres vivants. Le désappointement de Raoul était manifeste. Le jeune homme avait froid et il avait faim. Or, c'est chose triste, lorsqu'on a compté sur un bon feu, un bon repas, un bon lit, de trouver une ruine déserte et solitaire, ouverte à tous les vents du ciel. La physionomie de Monsieur de la Tremblay exprimait clairement ce qui se passait en lui. Émeraude se mit à rire d'un petit rire si franc et si joyeux que Raoul reprit immédiatement bon espoir. Évidemment, la jeune femme ne pouvait pas avoir le cruel courage de railler sa détresse si cette détresse était sérieuse. Émeraude posa la main sur le bras de Raoul. « Assez d'épouvante, lui dit-elle, cher incrédule, viens avec moi. » Et légère comme une gazelle, elle se dirigea vers l'un des angles de la cour, endroit où la chute d'une haute muraille avait amoncelé les décombres jusqu'à la hauteur du premier étage. Raoul, à son grand étonnement, s'aperçut alors qu'une sorte de tranchée étroite et profonde, invisible depuis le porche, était pratiquée entre les décombres. Cette tranchée conduisait à une poterne percée dans l'épaisseur de la haute tour carrée que nous avons comparée à une sentinelle géante. La porte en bois de chêne, constellée de têtes de clous énormes, n'était évidemment pas contemporaine des ruines. Émeraude s'arrêta et frappa 3 fois dans ses mains d'une façon particulière. La porte s'ouvrit. « Monseigneur, dit la jeune femme en riant, ou plutôt mon cher sire, puisque je vous ai fait roi de mon cœur et de mes sujets, entrez, vous voici chez vous. » Raoul passa. Rien ne se pouvait imaginer de plus affreux que la pièce dans laquelle il pénétra. Cette pièce, formant le rez-de-chaussée de la tour dont elle occupait toute la largeur, était voûtée, humide et sombre. Elle ne recevait de jour que par 4 meurtrières étroites, à peine suffisantes pour permettre de distinguer les teintes verdâtres et les guirlandes de toiles d'araignée suspendues au plafond de pierre. Mais c'est à peine si Raoul eut le temps de ressentir l'impression que devait faire naître cet horrible lieu. La voûte parut s'entr'ouvrir tout à coup, et une vive lumière jaillit de cette ouverture. En même temps, une petite échelle de fer, à rampe de soie, descendit de l'étage supérieur et vint appuyer son extrémité sur les dalles aux pieds de Raoul. « Monte !» lui dit Émeraude. Raoul obéit. Il se trouva alors dans un ravissant petit salon que nous décrirons suffisamment en disant qu'il renfermait toutes les merveilles du luxe le plus raffiné. Un escalier de fer, appuyé contre une des murailles et d'une si ravissante légèreté qu'on eût dit une dentelle noire, conduisait depuis le salon à l'étage supérieur. « Là-haut est la chambre à coucher, » dit Émeraude, répondant ainsi à un regard interrogateur de Raoul. Puis elle ajouta, « Nous la visiterons plus tard. Plus tard aussi, nous descendrons aux ateliers. Maintenant, tu dois avoir faim. Soupons. »
Soupons, répondit Raoul.
Mais comme en regardant autour de lui, il ne voyait aucun préparatif, il craignit que le repas ne se fît longtemps attendre. Sans doute, cette fois encore, Émeraude lut dans sa pensée, car elle sourit. Puis prenant sur une étagère de bois de rose un très petit sifflet d'or, elle l'approcha de ses lèvres. À 3 reprises, elle en tira un son prolongé, tout à la fois doux et aigu. Au même instant, la trappe par laquelle était descendue l'échelle, s'ouvrit sans cause apparente. Une table, toute servie, fit son entrée par l'ouverture, et la trappe se referma. Raoul, parfaitement décidé à ne plus s'étonner de rien, sembla trouver que ce mode de service était la chose du monde la plus simple. Il s'assit en face d'Émeraude, et tous deux firent honneur aux mets et aux vins dont la table était chargée. L'appétit, une fois satisfait, le tour de la causerie arriva. « Émeraude, demanda Raoul, comment m'as-tu dit que s'appelait l'endroit où nous sommes ?»«
Jadis, le château de la Baume. »«
Et maintenant ?»«
Oh, maintenant, il s'appelle le château maudit. » »«
C'est bien là le nom qui m'avait frappé. »«
Il est, en effet, bizarre. D'où vient-il »«
C'est toute une légende. »«
Une légende ?» répéta Raoul.
« Oui. »«
Merveilleuse ?»
« Oui. »«
Et la sais-tu ?»«
Sans doute. »«
Eh bien, cher enfant, j'adore les légendes, et surtout les légendes merveilleuses. Raconte-la-moi. »«
Comme tu voudras. »«
Mais si tu voulais... »«
Eh bien, si je voulais,
tu me permettrais de remettre à ce soir le récit que tu me demandes. »«
Pourquoi ?»«
Oh, mon Dieu, dans mon intérêt de narratrice, tout simplement. »
Il est des choses qu'il faut écouter quand la nuit est noire et quand le vent souffle au dehors. Un récit insignifiant ou absurde au grand soleil fait trembler et pâlir à l'heure des fantômes, lorsque le chat-huant gémit lugubrement dans les ruines ou sur le sommet blanchi d'un vieil arbre foudroyé.
Je crois que tu as raison, Émeraude.
Ainsi, tu attendras ?
Oui.
Merci, mon Raoul.
Mais jusque-là, que ferons-nous ?
Étrange roi, s'écria Émeraude, n'es-tu donc pas curieux de venir visiter ton royaume souterrain ?
Ah, répondit Raoul avec une galanterie plus affectée peut-être que réelle.
Quand je suis auprès de toi, je ne pense qu'à toi. La jeune femme attacha sur son amant un regard illuminé d'amour.
Ô mon roi, dit-elle, je t'aime.
Puis, après un baiser, elle reprit son sifflet d'or, dont elle ne tira qu'un son. La trappe s'ouvrit. L'échelle de fer à rampe de soie apparut.
Seulement, cette fois, elle montait au lieu de descendre. Raoul et Émeraude en franchirent les échelons légers et se retrouvèrent dans la sombre salle du rez-de-chaussée. Émeraude fit deux pas en avant, à partir du bas de l'échelle, puis deux pas à droite, et frappa du pied sur une large dalle. La dalle voisine sembla s'abîmer aussitôt et découvrit la naissance d'un escalier tournant de granit. « Viens !» dit Émeraude en s'élançant dans cet escalier. Raoul la suivit. À mesure que le jeune homme descendait, il éprouvait une sensation étrange. Des bouffées d'un air brûlant et saturé de vapeurs métalliques venaient par instants le frapper au visage. Il entendait des bruits bizarres. C'étaient des bourdonnements de voix confuses, le bruissement de chaudières gigantesques placées sur des brasiers ardents. C'étaient les sifflements aigus du métal en fusion qui se figent dans l'eau glacée, les retentissements des lourds marteaux, les coups stridents et monotones de balanciers frappant sans relâche. Tous ces bruits, nous le répétons, formaient un ensemble indéfinissable pour celui qui les entendait pour la première fois. Cependant, les marches succédaient aux marches. Il semblait à Raoul qu'il s'enfonçait dans d'incommensurables profondeurs. Peu à peu, des lueurs rouges, semblables à des éclairs dans une nuit sombre, traversèrent les ténèbres. Ces éclairs devinrent si vifs qu'à chacun de leurs rayonnements, Raoul était obligé de fermer les yeux. Soudain, l'escalier tourna. Monsieur de la Tremblay franchit trois marches encore, puis s'arrêta, pétrifié d'étonnement et d'admiration, en présence du spectacle inouï qui s'offrait à lui.